C'est l'heure du journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le sursaut des indépendantistes catalans au lendemain de l'incarcération de plusieurs membres destitués du gouvernement de Barcelone. Une liste unitaire se fait jour pour les élections régionales du mois de décembre. L'éclairage de notre envoyé spécial Thibault Lefebvre au début de ce journal. À Malte, les drapeaux sont en berne. La petite île méditerranéenne vient d'enterrer Daphne Caruana Galizia, sa journaliste anticorruption assassinée il y a 15 jours. Assassinat quasiment inédit dans l'Union européenne et qui interpelle à Bruxelles. Explication dans un instant. De Marie-Pierre Véraud. C'était le dernier grand centre urbain tenu par le groupe État islamique en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad, soutenu par ses alliés russes et iraniens, vient de reprendre la ville de Deir ez-Zor. Précision à suivre de notre correspondante Laure Stéphan. En France, l'agence de la biomédecine fait campagne pour les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. L'offre n'est pas à la hauteur de la demande, va nous dire Antoine Marette. L'appel du parquet général de Paris après le verdict au procès d'Abdelkader Merah. Décision parfaitement logique, selon Olivier Maurice, avocat des parties civiles, nous l'entendrons. Enfin, l'enquête du journal de 18h, l'affaire dite Altrad Laporte, qui secoue la Fédération française de rugby. Alors qu'un mandat d'arrêt européen devrait être émis ces prochaines heures à l'encontre de Carles Puigdemont, le président destitué de la Catalogne qui s'est exilé en Belgique, dans la région espagnole, les militants indépendantistes se mobilisent. Ils ont été choqués par l'incarcération hier de 8 membres de leur gouvernement, désormais révoqués par Madrid. Ce matin, une dizaine de routes ont été coupées de part et d'autre de la frontière franco-espagnole et on peut parler ce soir de sursaut unitaire autour du Parti démocrate catalan de Carles Puigdemont, Thibault Lefebvre.
Une unité politique. Le Parti démocrate catalan du président déchu Carles Puigdemont a appelé à la formation d'une grande liste de paix, divisée depuis une semaine sur la stratégie de son leader. Le parti s'impose désormais comme le point de convergence des défenseurs de l'état de droit. Sa vice-présidente, Neus Monte.
Il faut imposer une stratégie commune où tout le monde est représenté. Avec les partis comme le nôtre qui sont favorables à l'indépendance, mais pas seulement, nous devons ouvrir le front à tous les partis engagés à 100% en faveur de la démocratie. Il faut ensuite mettre en place un plan de bataille pour faire face et pour obtenir un résultat écrasant aux élections du 21 décembre.
Des élections qui vont se jouer en partie dans la rue. L'Union est aussi syndicale et associative. Plusieurs collectifs indépendantistes appellent ensemble à la grève générale mercredi prochain. Une revendication entendue hier lors des rassemblements de soutien au gouvernement déchu et emprisonné. Un soutien populaire qui envahit les rues des principales villes catalanes. Dans un peu moins d'une heure maintenant, des milliers de manifestants vont converger vers le siège de la région autonome, un bâtiment qui était, il y a moins d'une semaine, le cœur du pouvoir catalan.
Reportage signé de notre envoyé spécial à Barcelone, Thibault Lefebvre, sur son compte Twitter. Le député européen José Bové réclame l'arrêt des poursuites et la libération des prisonniers politiques. Après le placement en détention provisoire donc hier des 8 membres du gouvernement catalan destitués. Quant à la Commission européenne, interrogée sur la situation ce matin, sa porte-parole s'est bornée à renvoyer l'affaire vers les autorités judiciaires Bruxelles, qui depuis le début de la crise refuse de s'immiscer dans ce dossier qui relève, selon les 28, de l'ordre constitutionnel espagnol. L'Union européenne qui attend également la formation du quatrième gouvernement Merkel. Plus d'un mois après les élections législatives allemandes, la chancelière a fait un point d'étape ce matin sur les négociations de sa coalition jamaïque. Les pourparlers entre conservateurs, libéraux et verts progressent, mais on est encore loin d'un accord sur le fond, Cyril Sauvageau.
Le diable est dans les détails. Après 2 semaines de discussions préparatoires où tous les grands thèmes ont été passés en revue, sécurité, éducation, fiscalité, le plus dur commence pour Angela Merkel qui va devoir mettre tout le monde d'accord sur quelques sujets qui fâchent. La chancelière en est bien consciente, mais elle se veut malgré tout optimiste.
Je sais que nous avons encore des discussions difficiles à mener dans les prochains jours, mais je crois sincèrement que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Si chacun a le courage et la volonté de faire des efforts et si nous faisons en sorte que l'identité de chaque parti soit respectée.
Pour cela, il va falloir s'entendre sur 4 dossiers chauds. Immigration, agriculture, transport et climat. Alors que s'ouvre lundi la COP23, les Verts réclament un geste fort, la sortie du charbon. Jusqu'ici, conservateurs et libéraux ne veulent pas en entendre parler, mais les écologistes entendent bien batailler sur ce sujet, comme le confie l'un de leurs chef de file, Jürgen Trittin.
Si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, il faut mettre à l'arrêt des centrales au charbon pour réduire nos émissions de CO2. Les autres partis se trompent s'ils croient pouvoir faire une coalition avec le charbon. Ça voudrait dire qu'ils ne tiennent pas les engagements pris depuis 10 ans.
Les deux prochaines semaines devraient permettre d'y voir plus clair. Si un compromis est trouvé, les négociations de coalition à proprement parler pourront commencer. Autant dire que l'Allemagne n'aura peut-être pas de gouvernement avant Noël.
Correspondance à Berlin, signée Cyril Sauvageau. À Malte, le gouvernement a fait de ce vendredi une journée de deuil national. Plusieurs centaines de citoyens se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à la journaliste Daphne Caruana Galizia. 15 jours après son assassinat, la reporter qui travaillait sur des sujets sensibles de corruption a été inhumée dans la petite ville de Mostar. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Anne.
Cet assassinat dans le plus petit état de l'Union européenne est assez inédit. Une onde de choc parcourt d'ailleurs toujours ce soir les institutions européennes.
Et la seule personnalité conviée par la famille à ses funérailles privées est d'ailleurs le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Il a réclamé une enquête internationale pour faire la lumière sur cet attentat. Daphne Caruana Galizia était, a-t-il dit, une sentinelle, un soldat en première ligne dans la défense de nos valeurs. Dans l'île, les drapeaux sont en berne, mais également au siège de la Commission européenne à Bruxelles, qui réclame une enquête indépendante et approfondie sur cet assassinat barbare. Plusieurs patrons de presse européens ont aussi signé une lettre ouverte. Ils demandent au vice-président de la Commission, Frans Timmermans, d'utiliser ses pouvoirs pour que justice soit faite et que la liberté de la presse soit préservée à Malte. La journaliste, vous le savez, menait plusieurs enquêtes sur la corruption qui gangrène la classe politique maltaise. Elle avait mis en cause à plusieurs reprises le Premier ministre ainsi que le chef de l'opposition conservatrice. Ces révélations liant le chef du gouvernement et son épouse au scandale des Panama Papers avaient même provoqué des élections anticipées au cœur de l'été. La famille de Daphne Caruana Galizia a réclamé la démission du Premier ministre. Elle l'accuse de s'être entourée d'escrocs et d'avoir transformé Malte en île mafia. Sur place, peu font en effet confiance aux magistrats et policiers pour mener une enquête impartiale. Plusieurs hauts responsables de la justice et de la police maltaise ont été épinglés par la journaliste assassinée. Daphne Caruana Galizia a été tuée dans l'explosion de sa voiture piégée il y a 2 semaines, mais pour l'heure, l'enquête piétine. Aucun suspect n'a été identifié. Les experts américains du FBI et d'Interpol épaulent désormais les policiers maltais. Le cercueil de la journaliste a été longuement applaudi cet après-midi par une foule de plusieurs centaines de personnes qui s'étaient massées devant la petite église de Mostar. Des cris appelant à la justice ont aussi longuement résonné.
Merci Marie-Pierre Véraud pour vos explications. Au Moyen-Orient, 2 mois après le début de l'offensive des forces du régime syrien soutenue par la Russie et l'Iran, la ville de Deir ez-Zor en Syrie vient d'être reprise au groupe État islamique. Bonsoir Laure Stéphan.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en direct de Beyrouth au Liban. Les djihadistes perdent ce soir leur dernier grand centre urbain en Syrie.
Oui, c'est en effet la dernière grande ville que l'organisation État islamique tenait. Mais la menace djihadiste persiste. Le groupe contrôle toujours plusieurs poches en Syrie. Dans l'Est, c'est-à-dire dans la province de Deir ez-Zor, les extrémistes sont ainsi retranchés dans plusieurs villages, ainsi qu'à Boukamal, une petite ville à la frontière avec l'Irak. D'importants renforts y sont convoyés par l'armée syrienne et ses alliés. C'est à Boukamal que devrait se dérouler l'une des prochaines offensives majeures dans le pays. Pour Damas, la reprise de Deir ez-Zor, qui s'est faite avec l'appui de l'aviation syrienne et des combats du Hezbollah libanais est une victoire. Elle renforce le sentiment dans les rangs loyalistes que les gars militaires se succèdent. Le front de Deir ez-Zor a été l'un des plus difficiles pour les soldats syriens. La partie de la ville qui était restée sous le contrôle des autorités avait été assiégée par l'EI pendant près de 3 ans. Sur place, des équipes de démineurs sont à l'œuvre pour nettoyer les rues d'engins explosifs laissés par les djihadistes. Ces derniers ont opposé une résistance féroce depuis que l'armée avait brisé le siège début septembre. Au cours des derniers jours, les combats s'étaient accélérés. Ils se sont poursuivis jusqu'à la nuit dernière, selon des sources pro-régime, avant que les djihadistes ne soient chassés des derniers faubourgs qu'ils tenaient.
Merci Laure Stéphan. Et puis en Irak, les forces irakiennes ont repris la localité d'Al-Qaïm, située à l'ouest du pays. C'est le Premier ministre qui l'annonce à Bagdad. Al-Qaïm était l'un des derniers territoires tenus par l'organisation État islamique dans le pays. Aux États-Unis, Donald Trump vient de quitter Washington pour sa première tournée en Asie. Le président américain qui a promis dans un tweet que le groupe État islamique paierait, je cite, le prix fort pour toute attaque contre les États-Unis. Réaction à la revendication de l'attentat de New York par l'EI la nuit dernière. Les États-Unis, où se prépare par ailleurs une réforme fiscale de grande ampleur, elle vise à réduire fortement l'impôt sur les sociétés. Le taux d'imposition passerait ainsi de 35 à 20%. Le texte présenté à la Chambre des représentants reprend une partie des propositions de Donald Trump. Les précisions de Jean-Marc Chardon.
À y regarder de plus près, ce texte ne ressemble ni tout à fait à un programme tout ficelé, ni complètement aux annonces de la Maison-Blanche, qui auraient pu se traduire en feuille de route des Républicains, car il y a des différences sur l'amplitude des réformes fiscales et sur le calendrier aussi. Les élus, s'ils gardent le cap d'une baisse d'impôts voulue par Trump, que ce soit pour les entreprises et les ménages, ne l'accompagnent pas jusqu'au bout de ses objectifs. Ainsi, les millionnaires continueront-ils d'être imposés à plus de 39% alors que Trump voulait s'arrêter à 35%. L'impôt sur les sociétés, il sera ramené à 20% en dessous du taux maximal de 35%, mais les élus ne sont pas descendus à 15% comme le souhaitait le président. Quant à l'impôt sur les successions, qu'il voulait faire disparaître rapidement, il faudra attendre 2024. L'impôt sur la mort, comme dit Trump, a encore quelques années devant lui avant sa probable extinction. Tout cela parce que les républicains ont estimé qu'aller plus vite entraînerait une baisse de rentrée fiscale qui grossirait les déficits et la dette. Mais dans l'esprit, ils sont bien dans la foulée de Trump, volontaire pour alléger les impôts sur les classes moyennes notamment et simplifier en rabotant sur des niches fiscales tout en prenant soin d'épargner les plans épargne-retraite. La réforme ne touchera pas au dispositif actuel, de quoi rassurer une large partie de la population qui veut s'assurer du maintien de ses pensions de retraite. Maintenant, il y aura des amendements et beaucoup des démocrates, bien sûr, qui voient un budget pour les riches, mais aussi de républicains qui voudraient une réforme plus radicale encore.
En France, l'Agence de la biomédecine alerte sur l'insuffisance des dons de gamètes. Elle vient de lancer une campagne d'appel aux donneurs et aux donneuses. Chaque année, près de 3500 nouveaux couples font des démarches pour bénéficier d'ovocytes et de spermatozoïdes. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Anne.
Le problème, c'est que l'offre n'est pas au rendez-vous.
Effectivement, en 2015, seules 540 femmes ont donné des ovocytes et 255 hommes des spermatozoïdes. L'offre est inférieure à la demande. Résultat, les couples doivent attendre en moyenne 1 an pour un don de sperme et jusqu'à 3 ans pour un don d'ovocytes. D'où cette campagne d'appel aux dons intitulée « Quel donneur de bonheur êtes-vous ?». Françoise Merlet est responsable de l'assistance médicale à la procréation et de dons de gamètes à l'Agence de biomédecine.
Nous souhaitons développer l'activité à hauteur du besoin au niveau national. C'est un de nos objectifs prioritaires à l'agence, de développer ce qu'on appelle une autosuffisance nationale pour qu'il y ait une bonne équité d'accès aux soins pour chacun. Nous souhaitons obtenir 1400 donneuses par an et 300 donneurs de spermatozoïdes par an.
Et ce sont en particulier les donneurs de type asiatique et africain qui sont recherchés. Les couples infertiles peuvent en effet demander que le donneur ait une apparence physique proche du père. On demande donc plus de donneurs, mais cela n'a rien à voir, selon Françoise Merlet, avec la réforme prévue en 2018, réforme visant à légaliser la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires.
Là, on est vraiment sur des questions de société. Toutes ces questions vont être adressées dans le cadre des états généraux et de tout le processus de révision de la loi de bioéthique en 2018. Et moi, pour l'heure, ce que je peux vous dire, c'est qu'il nous manque des donneurs aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi actuelle, pour des couples infertiles, tels que c'est prévu dans la loi de 2011.
Sauf que la modification de la loi en 2018 pourrait bien aggraver le rapport entre l'offre et la demande de spermatozoïdes. La légalisation de la PMA pour toutes va créer plus de demandes.
Merci Antoine Maret pour vos explications. Un deuxième procès sera organisé pour Abdelkader Merah. Le parquet général de Paris a fait appel ce matin du verdict de la cour d'assises spéciale, cour qui a condamné le frère du tueur de Toulouse et de Montauban à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers pour association de malfaiteurs terroristes hier soir. La complicité d'assassinat n'a pas été retenue, ce que dénonce le ministère public qui fait donc appel. Appel qui concerne aussi le deuxième prévenu, Feta Malki, condamné à 14 ans de réclusion criminelle. L'avocat des parties civiles, Olivier Maurice, avait parlé hier d'un verdict équilibré, mais il reconnaît aujourd'hui la logique parfaite du parquet.
La thèse de l'accusation n'a pas été battue en brèche. Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste à caractère criminel. Une condamnation importante. Il y a une articulation à faire sur le plan juridique, qui est parfois complexe, entre l'association de malfaiteurs et la complicité des actes criminels, notamment ceux qui ont été commis par Mohamed Merah. Je crois qu'il était logique que le parquet général prenne cette décision d'un appel contre les deux accusés. Alors, certes, ça va avoir des conséquences aussi pour les familles, parce que c'est un procès qui a été particulièrement dur, éprouvant, et donc c'est en quelque sorte une remise à zéro, puisque c'est un nouveau procès qui aura lieu dans quelques mois, dans un an et demi, sûrement aussi extrêmement difficile, exigeant, mais je comprends cette logique du parquet général. C'est une logique aussi qui est importante pour d'autres procédures qui auront lieu ultérieurement. C'est l'ordre public qui est en jeu dans la perception qui a été faite par le parquet général, et nous soutiendrons la démarche du parquet général de soutenir cette accusation.
Des propos recueillis par Florence Sturm. Plus de 2 ans après l'attentat déjoué dans un train Thalys entre Amsterdam et Paris, l'enquête se poursuit. On apprend qu'un complice présumé de l'assaillant, Ayoub El-Kazani, a été transféré à la fin du mois dernier d'Allemagne en France. Il s'agit d'un Marocain de 25 ans qui aurait fait un aller-retour éclair en train entre Paris et Bruxelles 5 jours avant l'attaque du 21 août 2015. Cet homme serait aussi un proche du djihadiste Abdelhamid Abaoud, cerveau des attentat du 13 novembre à Paris. Concernant l'attentat de Marseille du 1er octobre dernier, le frère du ressortissant tunisien qui a poignardé mortellement 2 jeunes filles avant d'être abattu par la police a également été remis aux autorités françaises. Arrêté en Italie le 7 octobre, Anis Anachi est soupçonné de complicité dans ce double assassinat perpétré devant la gare Saint-Charles. L'enquête de France Culture ce soir, ce sont aussi les affaires qui secouent la Fédération française de rugby. Le mois de novembre s'annonce compliqué pour son président Bernard Laporte. Le 15, on va savoir quel pays organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023. La candidature française semble mal partie. Et puis à la fin du mois, l'inspection générale de la jeunesse et des sports devrait rendre son rapport dans ce que l'on appelle l'affaire Altrade Laporte. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Anne.
Vous avez enquêté sur ces dossiers qui menacent l'ancien secrétaire d'État en charge des sports. D'abord, rappelez-nous, qu'est-ce que l'affaire Altrade Laporte ?
Pour faire simple, Bernard Laporte est soupçonné d'avoir fait pression sur la commission de discipline de la Fédération de rugby pour qu'elle allège une sanction qui visait le club de Montpellier, dont le propriétaire s'appelle Moed Altrade. C'est un industriel français, le numéro 1 européen de l'échafaudage. Il est classé 36e fortune française. Le problème, c'est que Bernard Laporte a signé un contrat avec Moed Altrade, un contrat personnel. Il devait faire 4 conférences pour le groupe Altrade pour la coquette somme de 150 000 euros. Un président de fédération qui fait des affaires avec un président de club à ce niveau, ça semble étonnant, mais pas pour le journaliste Michel Biais qui a écrit un livre sur Bernard Laporte.
Quand il est au gouvernement, lui, ce qu'il voit, c'est que derrière, quand il va se remettre sur le marché des conférences, c'est pas 6 ou 10 000 euros la conférence qu'il va vendre, mais c'est 15-20 000 euros la conférence. Quand il est au gouvernement, c'est une exposition médiatique constante. Quand il est président de la Fédération française de rugby, c'est une exposition médiatique constante. Il utilise tout pour avoir de la notoriété et que cette notoriété lui permette de faire du business.
Et forcément, en échange de ce contrat, se pose la question d'éventuelles contreparties.
Or, il apparaît que la fédération a rendu quelques services à l'industriel.
11 jours après son élection, Bernard Laporte se prononce en faveur du projet de l'homme d'affaires de racheter le club anglais de Gloucester. Une idée qui fait bondir le rugby européen. Que se passerait-il si Montpellier et Gloucester s'affrontaient en Coupe d'Europe ? Tout le monde, apparemment, y voit un potentiel conflit d'intérêts, sauf Bernard Laporte, qui va même se déplacer à Genève pour défendre le projet devant l'Union des clubs européens.
Et ce n'est pas tout.
Non, quelques semaines plus tard, la Fédération française de rugby annonce qu'elle vend le sponsoring du maillot de l'équipe de France, une première, au groupe Altrade, pour une somme 1 500 000 euros qui étonne les spécialistes du marketing sportif comme Gilles Dumas de l'agence Sportlab.
1,5 million d'euros, c'est pas beaucoup par rapport à la valeur réelle de ce maillot. Le sponsoring de l'équipe de France, c'est 4 à 5 partenaires qui payent chacun, on va dire autour de 4 à 5 millions d'euros. Donc forcément, vendre le maillot à 1,5 million quand des gens qui ont moins, entre guillemets, de visibilité payent 4 à 5. Et c'est vrai que c'est déconcertant.
Et on a aussi appris, entre autres relations entre les deux hommes, que Moed Altrad avait mis des jets privés à disposition de la fédération. Bref, le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, qui sera rendu à la fin de ce mois, risque de compliquer la situation de Bernard Laporte.
Et d'autant qu'il est en difficulté, Bernard Laporte, dans un autre dossier, celui de l'attribution de la Coupe du Monde de rugby 2023.
Oui, la France semblait favorite pour l'obtenir. Et puis, boum, patatras, la fédération internationale a clairement indiqué ces derniers jours sa préférence pour l'Afrique du Sud en attendant le vote qui doit avoir lieu le 15 novembre. Bernard Laporte aurait pu s'appuyer sur une victoire dans ce dossier pour défendre sa position. Elle pourrait au contraire se compliquer.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo demain matin, samedi 4 novembre, ciel pluvieux sur une grande moitié ouest. Les Hauts-de-France et la région parisienne également parcourus par les nuages, temps gris au bord de la Méditerranée et en Corse. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs et les températures 10 à Strasbourg, 11 à Lille, 12 à Cherbourg, 13 à Paris et Bordeaux, 15 à Lyon et jusqu'à 19 degrés à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun à la technique. C'était Jean-Guilain Meige.